incroyable fête. Et toute nue, elle chante et comme ça, comment. C'était un homme passionné, l'inquisiteur, qui voulait sauver l'humanité. Pauvre pécheur de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre la nuit. Ils l'ont traîné par la chevelure. La chambre de torture. Un enfant qui crie éveilla son oreille et la sourire se mit à agir et elle vit. Elle s'entortelle et se mit à chanter la
Elle était belle et d'une blancheur laiteuse.
On voyait qu'elle aimait être amoureuse. Et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale.
Ah, tu m'assassines.
Sauve ton âme.
Présentation d'un livre qui est sorti cette année, 2014, en français. Un livre de Silvia Federici qui s'appelle « Caliban et la sorcière » qui comportait des thèses assez importantes et originales et aussi bien explicatives sur, en très gros on peut dire, sur la transition du féodalisme, Moyen-Âge, vers la modernité, la mise en place du capitalisme et surtout sur le rôle particulier ou spécifique de l'exploitation de la femme, l'expropriation de la femme dans toute cette période historique. On va peut-être commencer avec une toute petite présentation de l'auteur.
Donc Silvia Federici, elle est italienne, elle est née en 42 à Parme en Italie. C'est une universitaire, enseignante et militante qui s'inscrit dans la tradition du féminisme marxiste autonome. C'est-à-dire, elle sort de l'autonomie ouvrière, qui est inspirée par le courant libertaire et luxembourgiste. Donc, c'est un courant plutôt anti-autoritaire et insurrectionnaliste, qui a donné, déjà dans les années 70, durant donc, cette période qu'on appelle l'autonomie ouvrière italienne, une grande place au féminisme et aux luttes des femmes. Elle est aujourd'hui professeure et chercheuse à l'université de Hofstra dans l'État de New York, où elle enseigne les sciences sociales. Elle est arrivée aux États-Unis dans les années fin des années 60 et s'est engagée dans le mouvement étudiant et contre la guerre, bien sûr la guerre du Vietnam à l'époque. Et donc elle a fui une Italie très patriarcale où l'influence du fascisme était encore très forte. Donc avec toute cette glorification de la maternité et de la vie dédiée au travail domestique pour les femmes. Elle s'est assez rapidement lancée dans des recherches aux États-Unis autour de cette question-là, de la place des femmes dans la société. Et s'est penchée sur plus précisément la question de du rôle des femmes pour la reproduction de la force de travail. Donc à cette période-là, début des années 70, il y avait bien sûr le début du mouvement féministe un peu partout, et puis aux États-Unis c'était très fort, et il y avait déjà à partir de 72 une campagne pour le salaire ménager menée par des féministes, donc qui ont mené toute une campagne pour le salaire des femmes pour le travail domestique. Et en fait, elle-même, elle le décrit maintenant, après coup, comme plutôt une campagne contre le travail ménager. C'était un salaire contre le travail domestique, mais qui visait avant tout de rendre visible le travail des femmes. Parce que jusque-là, et y compris dans le marxisme, cette question-là, elle n'était pas considérée. Elle a été peut-être mentionnée un petit peu, mais jamais réellement analysée. Donc, toute la question de la création de la valeur et de la reproduction de la force de travail par la fabrication de la nourriture, par le soin, par tout ce qui concerne le travail des femmes à la maison, quoi, pour rendre possible que l'homme aille travailler à l'usine tous les jours et vendre sa force de travail, qui, elle, est prise en compte, mais pas le côté invisible, donc, des femmes. Et Federici, elle a été un peu fidèle, je pense, à ce thème-là tout au long de sa vie. Et on va voir plus tard, dans Caliban et la sorcière, c'est un des thèmes centraux, encore une fois. Donc, elle mène une critique approfondie de la théorie de Marx, sur notamment cette question-là. Et aussi sur la question de la chasse aux sorcières, Marx la néglige en particulier et elle la travaille vraiment de façon approfondie. Voilà, donc Federici ensuite a aussi enseigné au Nigeria, je ne sais plus, dans les années 90 je crois. Et elle mène aussi toute une analyse autour du travail des femmes dans le néolibéralisme. Donc elle a un peu étudié quelles sont les conséquences des politiques du FMI et de la Banque mondiale en ce qui concerne les femmes. Et voilà, avec l'accumulation primitive, un nouveau cycle de l'accumulation primitive contemporain, qui vise à privatiser le code génétique, l'eau, les semences, enfin tout le vivant. Et elle parle d'une nouvelle série d'enclosures, donc de privatisation, dont les femmes souffrent encore une fois doublement. Voilà.
Un vaste survol historique donc de la période de la fin du Moyen-Âge en arrivant jusqu'aux années 2000 pratiquement dans le livre.
Voilà.
En reprenant des concepts valables pour la mise en place du capitalisme, mais en les analysant ou en parlant à travers eux aussi de la période contemporaine. Quoi. Mmh.
Oui, elle insiste aussi beaucoup sur tout le côté de la perte du bien commun, donc et en relation avec les femmes et la persécution des sorcières.
Oui, et donc le livre est sous-titré Femmes, corps et accumulation primitive. Donc Caliban, ça serait plutôt le côté le côté du corps dont la perception change complètement à l'époque dont il est traité dans le livre. Et Caliban et la sorcière, donc la sorcière, ça fait allusion donc à la mère de Caliban, qui est un personnage de Shakespeare dans La Tempête et qui est une sorcière, mais ça aussi on y reviendra. Mais ça fait allusion bien sûr à la période de la grande chasse aux sorcières. Alors peut-être la première chose qu'il faut faire pour se rendre compte de quoi parle ce livre, c'est de situer un peu dans le temps toute cette affaire-là. Nous-mêmes, quand on a travaillé sur le livre, on a été un petit groupe à le lire ensemble et c'est vrai qu'on était un peu perdus dans tous ces siècles de la fin du Moyen-Âge et de ce qu'on a appelé plus tard la Renaissance. Et donc, on assimile très souvent la chasse aux sorcières à un phénomène moyenâgeux, alors que pas du tout, la chasse aux sorcières est contemporaine de la naissance de la modernité. Et le pic de la chasse aux sorcières, même si évidemment c'est un phénomène qui s'est préparé petit à petit, qui est monté en puissance petit à petit, mais le pic de la chasse aux sorcières, c'est le milieu du 16e, du milieu du 16e siècle, donc les années 1550, jusqu'à, en gros, la première partie du 17e siècle, donc 1630 à peu près. Et il se trouve que c'est plus du tout le Moyen-Âge, c'est vraiment la naissance de la modernité, la naissance du capitalisme aussi, on peut dire. Et donc la chasse aux sorcières est un des éléments qui ont précipité ou qui ont participé à la naissance de cette modernité. On a ensemble toute une série de discours philosophiques, toute une série d'idées qui vont ensuite être... enfin, toute une période qui va être ensuite qualifiée de Renaissance. Un peu comme si on sortait d'une longue nuit qui aurait été celle du Moyen-Âge, la chasse aux sorcières. Donc ça jette effectivement une lumière pour le coup un peu différente que celle dont on a l'habitude de parler à propos de cette naissance de la modernité. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, il y a une critique de Marx et il faut ajouter aussi de Foucault, qui lui a parlé beaucoup a fait trois volumes sur l'histoire de la sexualité, qui sont assez importants, mais où elle lui reproche d'avoir fait une histoire de la sexualité sans tenir compte du fait que... sans parler de la chasse aux sorcières par exemple, et du coup sans tenir compte du fait que les pratiques, les discours, tout ce qui s'est passé dans ce domaine ne se sont pas appliqués de la même manière aux hommes et aux femmes.
Ouais, on dit que à peu près 80% des procès en sorcellerie touchaient les femmes, quoi. On parle aussi quand même d'un phénomène extrêmement massif. Évidemment, les chiffres, c'est compliqué à donner des chiffres exacts sur cette période. Parce que les sources sont moins riches que ce qu'on a peut-être aujourd'hui. Mais quand même, les estimations, je crois qu'elle parle de entre 2 et 300 000 oui. personnes tuées avec accusation de sorcellerie, quoi. Donc on parle quand même d'un phénomène très massif, et du coup, quand on se demande, on peut être d'autant plus étonné que des gens qui ont travaillé ces périodes historiques le mentionnent très peu ou pas du tout, quoi. Voilà, pourquoi est-ce qu'on y a aussi peu parlé, quoi.
Thank you.
Voilà, on reprend avec cette présentation en forme de discussion autour du livre de Caliban et la sorcière, livre de Silvia Federici, avec le sous-titre « Femme, corps et accumulation primitive », donc qui parle de cette période de transition et de l'exploitation particulière par rapport aux femmes, et aussi du côté, d'une certaine manière, constitutif de cette exploitation de la femme pour la naissance du capitalisme, ce qui est aussi intéressant pour... par rapport à beaucoup de courants critiques, même dans les dernières décennies, qui pouvaient considérer la question féministe toujours comme, un peu, comme quelque chose de secondaire, comme un arrière-plan par rapport à la question du capitalisme, alors que pour elle, vraiment, elle va le situer historiquement comme quelque chose qui est constitutif, intrinsèque à la naissance du capitalisme. Mmh. Mais on peut peut-être dire deux mots sur le concept d'accumulation primitive, parce qu'elle en parle beaucoup, que Marx utilise, mais qui ne vient pas de Marx non plus, qui vient déjà d'avant, de Smith, d'Adam Smith, et de ce qu'on appelle les économistes bourgeois ou classiques. En gros, Marx il va analyser le capitalisme comme un système autoréférentiel, quoi, qui tourne sur lui-même, c'est-à-dire que du capital... va être investi pour produire des marchandises. Ces marchandises vont être vendues et à travers ça, on permet de regagner du capital et réaccumuler. Donc ça fait comme une espèce de mouvement cyclique pour qu'il fonctionne, évidemment, besoin de s'accroître en permanence. Sinon, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de logique. Mais d'une certaine manière, à un moment donné, il faut démarrer, il faut lancer la machine. Il faut qu'il y ait quelque chose extérieur à ce capital qui démarre, parce que sinon on ne voit pas très bien par où ça pourrait commencer. Et les économistes classiques ils vont dire que c'est à travers les siècles, c'est le travail acharné de certaines personnes qui a fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'argent pour pouvoir permettre, à travers par exemple le commerce lointain et ces choses-là, pour pouvoir faire travailler des gens et gagner et commencer un mode de production proprement capitaliste. Donc, contre quoi Marx il va s'insurger, et c'est pour ça qu'il va appeler un chapitre dans le Capital, il va l'appeler la soi-disant accumulation primitive, pour dire qu'elle ne s'est pas du tout passée comme ça, mais que cette accumulation de départ a été faite dans la violence, dans le sang, dans l'expropriation. Donc il va dire pour que ce mode de production capitaliste puisse exister, il faut deux éléments qui se rencontrent. Il faut d'un côté donc des gens qui ont du capital, qui ont de l'argent à investir, mais de l'autre côté il faut aussi une grosse masse de gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de moyens d'existence, qui sont séparés de leurs moyens d'existence, qui sont arrachés à leur mode de survie et qui n'ont plus que leur propre force de travail à vendre. Donc en fait, il faut un marché, c'est ce que lui va appeler des travailleurs libres. Évidemment, il ne faut pas comprendre par libre, y mettre une connotation positive. Libre, pour lui, ça veut dire détaché de toute possibilité de survie autonome. Libre, vraiment dans le sens, on est là, on n'a plus que sa force de travail à vendre. Ce qui va être plus tard sa définition du prolétariat, quoi. Et donc pour lui, la description de cette accumulation primitive, elle consiste surtout à expliquer comment on est arrivé à cette situation, comment on est en arrivé... que d'un côté il y a accumulation de capital pour pouvoir investir, et de l'autre côté comment on a fait que la grande masse de la population a été complètement dépossédée de leur mode de survie, moyen de survie, mode de travail, et en gros c'est à travers la violence, l'expropriation, c'est là qu'il va introduire les enclosures, par exemple en Angleterre, parce que c'est l'Angleterre où le capitalisme va naître en premier. Donc les enclosures, c'est un terme francisé qui vient de l'anglais, qui veut dire mettre en clôture, et qui décrit une période historique. Bon, il y en a eu plusieurs périodes historiques, là, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais qui en gros va décrire la privatisation des terres communes, qui était très important et très répandue en Angleterre. Privatisation enclôturée, et donc expulsion également en même temps des gens qui avaient que ces terres communaux pour survivre. Donc il n'y a pas seulement clôture des terrains, il y a également destruction de maisons, destruction de villages, d'hameaux. D'une certaine manière, on jette les gens en dehors d'une société, d'une possibilité de survie, qui ensuite, il ne leur restera plus que d'autres choix que de vagabonder ou alors chercher du travail, chercher à vendre sa force de travail. Donc voilà, dans l'idée de Marx, c'est séparer les gens de leurs moyens de survie et de travail. Donc ça, c'est beaucoup ces enclosures, les privatisations des terres communes, Et de l'autre côté, dans l'accumulation primitive, il y a donc le vol de toute richesse, de tout argent, et là-dedans, en premier lieu, ou le plus grand, pour le départ, c'est la colonisation des Amériques, avec le vol de toutes les richesses d'une nation, et ensuite, avec continuera plus tard avec les Indes et plein d'autres. Donc tout le développement du colonialisme, de l'esclavagisme, et toutes ces choses-là qui pour lui, sont la marque de naissance du capitalisme, quoi. Et lui, il a des mots et des expressions très dures pour décrire tout ce processus. Il va dire que du capital, on ne se rend pas compte, mais quand un capital soi-disant neutre, par exemple aux États-Unis, va s'investir dans une fabrication, ben on oublie de dire que c'est le sang d'enfants qu'on a exploité auparavant en Angleterre. Donc il y a tout un développement historique pour permettre ce lancement de la machine. Oui, elle va élargir beaucoup ce concept. Donc de Marx, elle va d'un côté critiquer, comme on a déjà dit tout à l'heure, qui ne parle pas de la chasse aux sorcières, du rôle spécifique du travail des femmes. Elle va aller élargir ce concept à pratiquement, donc surtout au rôle des femmes, comme on l'a dit. Le terme d'enclosure, elle va l'utiliser pour le corps des femmes, pour le travail des femmes. Elle va dire on vole pas seulement la terre pour mettre en place ce système, mais on vole aussi l'humanité, le savoir-faire, jusqu'au corps, jusqu'à le travail des femmes, quoi. Mm-hmm. Donc elle va en faire un concept très très large en disant que tout ça était nécessaire pour faire marcher ou pour faire naître le capitalisme, quoi.
Ouais, puis il dit aussi que les femmes, elles souffrent quand même beaucoup plus de ces enclosures, parce qu'on voit que dans ces années d'enclosure, en fait, il y a beaucoup beaucoup d'hommes qui partent vagabonder. Le vagabondage, ça devient un phénomène de masse presque. Et qu'en fait, pour les femmes, était très très difficile de pouvoir partir sans que les hommes pouvaient le faire, parce qu'elles avaient souvent des enfants, où elles étaient enceintes et tout ça, et qu'en fait, elles ressentent encore de façon beaucoup plus forte de cette pression et cette division aussi, parce qu'elles sont à la merci d'elles-mêmes et qu'elles sont incapables de souvenir à leurs propres besoins et même de s'en aller partir et chercher fortune, et puis petit à petit elles se font aussi expulser elles n'ont plus le droit d'exercer des professions, elles se retrouvent en ville, on décriminalise le viol. Donc
et bien sûr que lorsqu'il y a eu des révoltes contre l'ordre féodal, ou ensuite un peu plus tard des révoltes de la faim, des émeutes de la faim, c'était extrêmement souvent les femmes qui étaient en première ligne. Et donc là, ça leur enlevait toute leur puissance d'agir collective à partir du moment où elles devenaient plus que des proies pour les hommes.
La mise en place quand même de l'expropriation des terres, mais l'expropriation des corps et des femmes, est d'une certaine manière une réponse, quoi, des puissants à tout ce mouvement des révoltes, quoi. Mmh. Et donc voilà, elle parle des jacqueries, des guerres paysannes en Allemagne, de plein de mouvements de révolte, et avant ça aussi, ouais, les différents mouvements hérétiques.
Oui, à propos de la réponse, ce qu'on a appelé ensuite, ce qu'on pourrait appeler la réaction, il y a donc comme point, un des points centraux, c'est la grande chasse aux sorcières, et ça, elle montre assez bien que c'est... Je pense pas qu'on puisse identifier un sujet de la réaction qui organise toute une stratégie pour combattre le peuple à cette époque-là. Mais quand même, il y a clairement une initiative politique dans cette chasse aux sorcières, c'est-à-dire des nouvelles, d'une part la création des sorcières, qui se fait à travers la naissance de l'imprimerie aussi, qui date à peu près du même moment que la découverte des Amériques. Et il faut voir que dans les premiers livres imprimés, à part des Bibles, il y a toute une série, je ne sais plus combien, elle cite le nombre, il y a plusieurs dizaines de traités de sorcellerie. Et quand on dit traité de sorcellerie, c'est en fait des traités pour la chasse aux sorcières, mais quelque part, c'est aussi des traités de sorcellerie, parce que c'est effectivement des hommes d'église qui ont inventé cette histoire de, de, de sorcellerie telle qu'elle va être chassée ensuite, c'est-à-dire le tout le... Enfin, eux, ils parlent d'une sorte de secte internationale qui pratique le culte de... le culte du diable, comme une sorte d'église inversée, une église noire, avec ses rituels, ses réunions. Donc les réunions, c'est le sabbat. Et tout ça est mis noir sur blanc dans ces fameux traités de sorcellerie, dont le plus célèbre s'appelle Le Marteau des Sorcières.
Publié en 1487.
Et donc, comme par hasard, ensuite, on va retrouver dans les aveux des sorcières qui auront été au préalable convenablement torturées. Toutes ces scènes du sabbat telles qu'elles avaient été décrites dans ces manuels de sorcellerie. Et donc, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le fait que ça se passe dans à peu près toute l'Europe, le fait que ce soit la même thématique qui soit reprise dans tous les procès, tout ça, et puis aussi le fait qu'il fallait organiser tout ça, c'est-à-dire qu'il fallait d'une part des juges à peu près informés de quoi ils allaient juger, des assesseurs, des greffiers, des bourreaux, tout ça coûtait de l'argent, il fallait financer tout ça, il y avait toute une logistique autour de ces procès.
Oui, il y a peut-être là-dessus aussi un peu un truc qu'on s'imagine souvent faussement, que ça soit que l'Église qui a fait ces persécutions, ce qui n'est pas du tout le cas, quoi.
Ouais. Absolument, ouais. C'était effectivement ce qu'on appelle le bras séculier, c'est-à-dire l'État. Et ce que dit Federici, après, là, pour le coup, quelques autres historiens qui l'ont remarqué déjà, c'est que cette chasse aux sorcières est aussi contemporaine de la construction de l'État moderne. C'est-à-dire que c'est à travers des opérations répressives comme celle-là, pas seulement à travers cela, hein, évidemment, mais entre autres à travers des opérations comme celle-là que se sont construits les États.
Donc voilà, il y a aussi une partie de ce bouquin que je considère assez intéressante. C'est toute la partie où Federici aborde un peu le monde des idées, le contexte idéologique de cette époque, un peu l'habitat, le terreau dans lequel tous ces processus vont s'enclencher du capitalisme, de l'industrialisation, de la chasse aux sorcières et tout ça. En fait, elle nous montre assez bien comment tous ces phénomènes-là sont en fait assez étroitement liés. Et en fait, une des grandes problématiques de cette époque, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir amené aux villes plein de masses de travailleurs et d'avoir commencé à travers des inventions technologiques, commencé à faire tourner un peu l'industrie, la manufacture et tout ça. Obtenir une soumission ou une envie ou une fierté de travail de la part des gens. En fait, un des gros problèmes de cette époque, c'était que ces masses de travailleurs parachutés dans les villes, dans un état assez miséreux, ils considéraient néanmoins le travail comme quelque chose qui était détestable, qu'il fallait absolument refuser à tout prix, l'échelon le plus bas de l'échelle des valeurs. et que donc voilà, c'était pas simple de comment dire de donner une certaine noblesse et d'inculquer une éthique de travail à tous ces gens. Et ça, on le voit par exemple, juste pour citer un exemple, dans les parce que là, je suis en train de parler de entre le 15e et le 17e siècle, mais sous le règne d'Henri VIII, par exemple, entre 1510 et 1547, à peu près par là, on voit que malgré il est promulgué des lois qu'on appelle sanglantes, donc des lois qui essayaient d'inculquer la discipline et d'empêcher le vagabondage. Pendant les années de son règne, il y a 72 000 hommes qui sont pendus. Et en fait, c'est assez parlant comme exemple, parce qu'on voit qu'effectivement, les gens préféraient risquer la vie, préféraient défier la peine de mort plutôt que se plier à l'éthique du travail.
Après, préférer, il faut peut-être faire attention aussi, parce que c'était aussi une question de possibilité. Parce que les gens, comme tu disais, les gens ils ont été expulsés par les enclosures. Et en même temps, c'est une période où il n'y avait pas encore de marché de travail libre. Il y avait les corporations, par exemple, dans les villes qui réglementaient la quantité de gens qui pouvaient travailler. Bon, voilà.
Dans cette époque du 15e, 17e, la recherche se retourne donc vers le corps, mais vers un corps qui est séparé du reste. En fait, on sépare le règne animal du règne végétal, de l'homme. L'homme, il ne fait plus partie de la nature, mais même le corps humain, il ne fait plus non plus partie de la nature, parce que c'est simplement le réceptacle de tous ces bas instincts de l'homme et que la rationalité doit arriver à dominer. Et en fait, la façon dont on étudie le corps en cette époque-là, c'est une façon, ce n'est pas une étude d'ensemble, ce n'est pas des études harmonieuses comme ça pouvait être selon les croyances du Moyen-Âge, c'est de la profanation, c'est de la dissection, de la dislocation. On essaye en fait de trouver un corps qui peut s'apparenter à une machine. Et c'est pas étonnant en fait cette histoire de corps-machine à cette époque, c'est parce qu'en fait on se rend très bien compte à ce moment où la technologie elle n'est pas encore du tout développée, que le corps humain, c'est quand même la seule énorme et grande source de valeur de cette époque. C'est grâce au travail humain, donc grâce au travail qui est fourni par le corps humain, qu'on peut transformer, qu'on peut obtenir de la valeur à partir des ressources premières. Donc en fait, ce qui est très intéressant de ce corps, c'est aussi... ça fait aussi peur parce que le corps, il est quand même la force d'inertie de lui-même. Tant qu'on n'a pas intégré une éthique du travail, une fierté de travail, le corps, il reste inerte, il ne bouge pas. Mais le fait de l'apparenter à une machine, ça veut dire, si le corps est une machine, comment on va faire en sorte que ce corps, il puisse se mettre en route? Et donc, en fait... il y a différentes réponses à cette époque. Bon, on ne va pas peut-être se rentrer dans les détails de la recherche philosophique, mais Federici, elle parle principalement de deux courants de pensée différentes. Donc l'une, c'est Descartes et l'autre, Hobbes. Les deux partent du même point de départ, c'est-à-dire que le corps est une machine. Et de quelle façon on peut le faire fonctionner, on peut prévoyer, on peut surmonter ses passions, ses désirs, tout ce qui normalement il n'est rationnellement pas calculable, comment on peut rendre prévisible tout ça.
Donc ça date aussi de cette période de séparer le corps et l'âme ou quoi?
Oui, oui.
Parce qu'il faut bien trouver quelque chose pour l'âme si le corps n'est plus qu'une mécanique.
Oui, mais voilà, si le corps n'est plus qu'une machine, en fait, l'âme, la partie rationnelle de l'homme, c'est elle qui gouverne ce corps qui n'est que le siège de bas instincts, de besoins, mais aussi de voilà, de saleté, d'humeur, de perversion, d'humeur dégueulasse. En fait, de cette époque datent aussi beaucoup d'études sur les excréments, sur les. On veut prouver qu'en fait, le corps humain, il est rempli de liquides, d'humeurs qui sont sales, mais qui sont le symbole d'une perversion intrinsèque à l'homme. Donc le corps, il est complètement dévalorisé, il est complètement déshumanisé. Descartes, il arrivera même à dire « je ne suis pas ce corps, la mort d'un corps ne vaut pas le bris d'un outil », pour dire, voilà, tout ce qui compte dans ce fait-là, c'est qu'il y a une séparation donc, entre le corps en tant que nature, en tant que machine, en tant que quelque chose de, qui n'a aucune valeur, et la partie rationnelle de l'homme, donc sa rationalité, sa volonté, son âme pensante, après selon les différentes visions. Mais c'est ce côté-là, ce noyau-là qui est capable de donner législation à ce corps qui autrement il serait complètement sans frein et impossible
à diriger, ouais,
impossible à contrôler, à diriger, voilà. Donc il y a cette énorme séparation entre le corps et l'esprit, et en fait Descartes il arrive même à faire une séparation ontologique dans toute la nature, dans toutes les choses, entre, mais surtout dans la nature humaine en fait, entre réalité pensante, donc la rationalité humaine, et tout le reste, le corps, la nature, le règne animal et tout ça. La seule valeur de toutes ces choses, donc de la nature, de mon corps, c'est de pouvoir les dominer. Et cet agent dominant, c'est la rationalité. Donc c'est par le biais de la rationalité, de la volonté humaine, que tout doit être dominé, soumis, rationalisé. Hobbes, il est d'un autre avis. En fait, pour lui, l'agent qui nous permet de contrôler les instincts de ce corps, qui n'est plus qu'une machine, mais une machine assez sale et assez bestiale, quoi, qu'il faut absolument arriver à dominer. Ce n'est pas cette rationalité, cette gouvernance ne peut pas venir de l'intérieur de l'homme. Il avait un peu peur que ça soit un peu trop démocratique. Hobbes, il parle en fait d'un Léviathan. Pour lui, en fait, lui, il part du présupposé que l'homme, dans un hypothétique état de nature, il serait que asservi à ses propres instincts. Et donc, il ne ferait que de faire valoir son propre instinct d'autoconservation, ce qui générerait en fait une guerre de tous contre tous. Et il dit, pour pallier à ces grands problèmes, en fait, chaque être humain, il abandonne, en fait, c'est le fameux contrat social que Hobbes il institue. Chaque être humain, il renonce à tous ses droits et il les lègue au Léviathan, qui à sa place il fait respecter sa loi, qui est de toute façon toujours totalement juste, puisque c'est la somme, la résultante de la somme de toutes les volontés individuelles qui ont cédé, de tous les droits de chaque homme qui ont été cédés à ce Léviathan. Donc pour lui, en fait, ce n'est pas cette partie qui fait fonctionner la machine corps, ce n'est pas de la volonté intrinsèque à chaque être humain, mais c'est l'état terroriste, c'est l'état coercitif qui peut faire valoir sa loi.
Mmh. Et donc, toutes ces pensées, ces philosophies, là, elle cite aussi à un moment Bacon, je crois, qui lui disait qu'il faisait carrément un parallèle entre la recherche scientifique sur la nature et les procédés sorcières, en disant qu'il fallait quelque part torturer la nature pour lui faire avouer ses secrets.
Il pensait que la nature, c'était seulement quelque chose auquel il fallait poser les bonnes questions. C'était une espèce de chose morte que l'homme pouvait... Pas vraiment une chose morte, mais voilà, l'homme devait juste essayer d'en capter les secrets, d'en trouver les causes, mais seulement les causes formelles, parce qu'en fait, de la finalité de la nature, à cette époque-là, on commence vraiment à ne plus du tout s'intéresser. C'est ne plus du tout important de savoir pourquoi, mais simplement comment ça fonctionne. Et à un moment où on en a déduit la loi du fonctionnement, pouvoir la transformer pour que ça soit profitable à l'homme. Donc en fait, pour Bacon, toutes ces croyances naturelles, religieuses du Moyen-Âge, elles étaient complètement un obstacle pour cette nouvelle conception de la science. Au point qu'il en arrive même à dire, si les sorciers étaient punis, l'homme il serait bien plus apte à travailler que ce qui l'est maintenant. Ouais. Il y a vraiment des déclarations...
Une autre chose qu'elle souligne, hein, c'est que la plupart des intellectuels, des philosophes, etc. de l'époque se sont prononcés en faveur de la chasse aux sorcières, et même parfois même parfois, ils en ont rajouté, quoi.
Ouais, aujourd'hui, on a du mal, on a un peu du mal à s'en rendre compte parce que nous avons tellement intégré cette éthique de travail, cette idée de travail que, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de conceptions, d'idéologies, de mentalités ésotériques qui peuvent cohabiter. Il y a l'astrologie, il y a plus aucun problème à notre époque parce que même le magicien, entre guillemets, qui lit les cartes, il sait très bien à quelle heure ils doivent se pointer, aller travailler, il sait très bien comment tout ça fonctionne. Mais souvent, on a du mal à l'époque à s'imaginer de quelle portée c'était... Cette mission de changer la mentalité, parce que la mentalité magique, la mentalité animiste, ça signifie aussi que les gens, ils croyaient dans les astres, ils croyaient pas dans le... Ils croyaient qu'il y avait des jours fastes, des journées fastes, donc des jours où on pouvait sortir de la maison, d'autres jours où on pouvait pas du tout bouger de là. Et en fait, c'était impossible dans un contexte d'un travail et tout ça, d'imaginer ça. Et en fait, l'échafaudage sur lequel se basait cette mentalité, cette philosophie, il fallait qu'il soit complètement démantelé, complètement détruit pour que cette nouvelle mentalité, cette nouvelle intériorisation, de pas seulement de l'éthique de travail, de plein d'autres choses, de la suprématie de la raison sur le corps, sur la nature et tout ça, pouvait enfin se mettre en place.
De l'État.
Et de l'État, ouais.
De l'État à travers Hobbes avec son Léviathan qui est l'État, quoi.
Ouais, ouais.
Mais, et puis, ouais.
Ouais, et puis la magie aussi, c'est considéré comme une forme de pouvoir, par exemple. Et ce pouvoir-là, il fallait absolument le briser parce qu'il y a d'autres pouvoirs qui lui faisaient concurrence, quoi.
Parce qu'il faut lire un peu ces lois sur la mise en place du travail, c'est quand même. On a torturé les gens, on les a brûlés. Toi, tu as parlé des pendus, des 70 000 pendus pendant 30 ans dans le règne d'Angleterre. Mais ça a duré 2-3 siècles avec des législations. En Angleterre, il y avait une législation au 16e siècle aussi où si un gentilhomme trouvait quelqu'un qui n'avait pas travaillé, je crois, depuis 5 jours ou quelque chose comme ça, il pouvait aller le dénoncer à la police. On lui brûlait un V pour vagabond ou fer rouge sur le front. Et cette personne qui l'avait dénoncé pouvait le garder comme esclave pendant 2 ans. Il y a eu plein de législations comme ça pendant 2-3 siècles, quoi. Je veux dire, la mise au travail de des gens ne s'est pas fait comme ça. Ça, c'est une fable de l'économie en fait, classique, quoi, que les gens sont allés au travail pour leur intérêt, quoi.
Ouais, et en fait, la thèse centrale, je pense, du bouquin de Federici, dans ce cadre-là, c'est la mise au travail des femmes, en fait, et du corps des femmes. Et donc, elle décrit aussi tout ce qui s'est passé autour des questions de la contraception, de l'avortement, de l'accouchement. Le fait que parmi les sorcières qui ont été brûlées, il y avait aussi beaucoup de sages-femmes. En tout cas, c'est les sages-femmes qui sont restées ensuite. Avaient été mises au pas et remises, ou plutôt mises au service de l'État et des hommes, alors qu'auparavant, avant cette phase-là, les questions, toute la question de la contraception, de l'avortement, de l'accouchement, c'était une affaire de femmes, et une affaire en plus de, non seulement de femmes, mais de, comment dire, de communauté des femmes, quoi. Et donc, elle dit, à l'époque, l'action de l'époque contemporaine de la chasse aux sorcières, l'action de l'État et des médecins hommes qui ont commencé à monter en puissance à ce moment-là, a consisté à dissoudre cette communauté qui se réunissait autour de la femme en couche, par exemple. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que change la décision dans le fait de savoir si, quand un accouchement se passe mal, on doit sauver la mère ou l'enfant. Et là, auparavant, les femmes avaient plutôt tendance à sauver la mère. Après, ça a été l'enfant qui est devenu la priorité absolue, parce que c'était aussi la priorité de l'État de l'époque, face à la crise de population, et puis avec les premières idéologies qu'on a appelées mercantilistes, qui identifiaient, comme par exemple celle de Jean Bodin, dont on a parlé tout à l'heure, qui identifiaient la puissance d'un État avec le nombre de sa population. Et donc la priorité absolue, c'était, ils étaient encore loin de politique d'encouragement à la natalité, mais par contre, il y avait une politique de répression nataliste absolument terrifiante, quoi. Et on voit aussi que dans les procès des sorcières, il y a toute une série de thèmes comme ça sur qui ont trait à la sexualité et aussi à la question de l'infanticide et de la question des enfants en général. Les sorcières sont accusées de, par exemple, de fabriquer des pommades avec des petits bébés, avec le corps de petits bébés qu'elles ont tués auparavant, évidemment. Des pommades dont elles s'enduisent pour pouvoir voler, pour aller au sabbat, etc. Et donc il y a vraiment une thématique très récurrente autour, à la fois autour de l'enfantement des enfants, de la contraception, mais aussi de la sexualité et du fait que on essaye de dénoncer les pouvoirs de la femme par rapport à dans le tête-à-tête avec l'homme, dans l'échange sexuel. Et par exemple, le fait que les sorcières sont accusées de rendre les hommes impuissants et même de leur voler leurs attributs virils, si bien qu'on trouve des histoires incroyables dans ces très sérieux traités de sorcellerie, justement, où les sorcières volent les pénis d'un certain nombre de gens et les élèvent ensuite dans des nids, dans des arbres. Ce qui est assez étonnant, c'est que les promoteurs enfin, ceux qui sont devenus de fait, ou qui ont participé à ce mouvement de promotion de la rationalité, moderne telle qu'on la connaît nous, donc du désenchantement du monde, etc. C'est aussi dans le même mouvement qu'ont été inventées toutes ces histoires de sorcières absolument délirantes, quoi.
Ouais, puis la femme sorcière telle qu'elle est décrite comme disons une femme qui dévorée par la passion, qui fait déraisonner l'homme, justement dans cette époque qui est un peu la naissance de la rationalité moderne, c'était quelque chose qui devait être éradiqué aussi. La femme proche de la nature, la femme qui fait déraisonner l'homme, c'était quand même quelque chose qui était considéré dangereux. Il y a beaucoup d'intellectuels de l'époque qui déplorent le fait que l'homme puisse ne plus être lui-même dans des moments où la séduction ou les jeux de l'amour lui font perdre complètement lui-même. Et en fait, voilà, on peut dire aussi qu'en stigmatisant cette image de femme libérée, on crée le nouveau modèle de femme qui la veut soumise, qui la veut enfermée, qui la veut un peu...
Et malade aussi souvent, ouais. Enfin, faible.
Faible, ouais. Oui, voilà, ouais. Faible.
On va terminer bientôt sur cette présentation, donc toujours de Caliban et la sorcière, livre de Silvia Federici. À la fin, elle fait un chapitre encore où elle va arriver jusqu'à nos jours, quoi, jusqu'à les années 2000. Donc vraiment, elle fait un long survol historique, mais c'est aussi intéressant. Justement, ça reste pas, c'est pas juste une question de passage Moyen-Âge, féodalisme, capitalisme. Elle fait un parallèle avec l'époque contemporaine, puisqu'on t'avait dit dans l'introduction, elle a travaillé en Afrique pendant plusieurs années. Elle s'est penchée sur cette question de la chasse aux sorcières en Afrique, et avant ça aussi sur la chasse aux sorcières dans la colonisation. Donc dans la colonisation, on en a déjà parlé un peu, et c'est bon, rien de très surprenant, mais voilà, ça a aussi existé comme phénomène très massif dans la conquête des Amériques. Ça a commencé dans cette colonisation-là. Donc pour détruire les gens, pour tuer les gens, pour massacrer les gens, pour justifier cette barbarie qui s'est passée, ben, il fallait aussi, dans les idées, aussi déshumaniser les personnes, il fallait aussi les rapprocher d'animaux, et tout ça, on voit la même iconographie que dans la chasse aux sorcières, avec le diable, avec tous ces procédés pour justifier presque une colonisation qui serait civilisatrice, quoi. Donc il faut rendre ces populations entières au rang d'animaux. Oui, par exemple, on voit souvent ces tableaux, ces exemples, quand les Espagnols arrivent en Amérique, ils donnent des cadeaux et presque on traite ces gens d'enfants, ou c'est même pas des êtres humains finis, parce que pour quelques billes en verre, ils sont prêts à donner toute leur richesse et tout ça. Ils n'ont même pas encore appris notre calcul de notre belle rationalité qui nous a menés si loin.
Oui, c'est ça. Et puis la chasse aux sorcières, elle explique aussi qu'en Amérique du Sud, elle donne des exemples. Elle s'exerce aussi particulièrement contre les résistances à la colonisation, lesquelles résistances s'appuyaient évidemment sur les dieux et sur les divinités plutôt traditionnelles. Et donc ça, c'était particulièrement pourchassé et réprimé par les, par les colonisateurs.
Il y a une question intéressante qu'elle explique un petit peu, mais bon, ce serait intéressant de savoir plus. Pourquoi particulièrement sur les femmes aussi en Amérique latine? Mais elle va répondre que dans les sociétés précolombiennes, les femmes avaient joué un rôle beaucoup plus important, et l'introduction de l'ordre social européen reléguait les femmes au deuxième plan, et que c'était une des raisons des résistances. Donc voilà, dans la colonisation, même elle dit que ça, d'une certaine manière, fait des allers-retours. La chasse aux sorcières massive qu'il y a eu dans les Amériques a eu des effets sur les chasses aux sorcières ensuite en Europe. On a fait revenir des thèmes, des iconographies et des thèmes de là-bas en Europe aussi. Donc ça nourrit encore la chasse aux sorcières en Europe aussi. Mais voilà, en gros, c'était évidemment pour piller, pour voler ces pays, pour mettre au travail aussi les populations dans les mines. Elle décrit tout ce passage quand le besoin d'importation d'or et d'argent devient de plus en plus important des colonies, ben, il faut mettre au travail les gens pour aller travailler dans les mines. Et encore une fois, on a tout ce processus, quand on a déjà parlé de disciplinisation. Ensuite, elle fait un parallèle qui est intéressant, qui est, bon, ça peut paraître des fois un peu osé, mais ça se discute, mais qui est intéressante quand elle parle de l'Afrique des années 1980, quand elle y était, 1980 jusqu'à 2000, où également il y a de nouveau eu des chasses aux sorcières, des accusations de sorcières dans différents pays, je crois qu'on parle de l'Ouganda, certains en Afrique du Sud, de différents pays. Où elle, pour elle, c'est le même processus à l'œuvre, ça veut dire de cette accumulation primitive. Il s'agit encore une fois de détruire les liens villageois, les liens sociaux, d'isoler les gens, de déposséder les gens de leur mode de survie. Et voilà, pour elle, on a encore une fois recours à ce procédé de chasse aux sorcières. Donc pratiquement jusque dans les années 2000.
Ouais, ce qu'elle dit, c'est que en fait c'est les populations elles-mêmes qui se livrent à la chasse aux sorcières, mais que ça suit en général des plans d'ajustement structurel menés par le FMI et la Banque mondiale, et donc des phases d'appauvrissement extrême de la population, quoi.
Ouais, ça suit des nouvelles vagues de privatisation, quoi, comme il y a eu les enclosures et que elle élargit ce terme d'enclosure au corps et à tous les aspects de la vie. Voilà, elle parle des vols de terre en Afrique, des vols des matières premières. Donc je pense là-dedans, il y a un parallèle qui est vraiment intéressant quand elle parle d'accumulation primitive dans ce sens-là, que de dire, voilà, il y a un vol, quoi. On pillage et un vol de tout ce qui peut être d'une manière ou d'une autre exploité.
Juste hier, je lisais encore une partie d'une étude qui s'en fait actuellement depuis un bout de temps, hein, sur la relation justement entre les féminicides, comme au Mexique, dans les zones où le néolibéralisme est férocement installé, dans les maquiladoras, les usines, voilà, où les femmes bossent vraiment pour rien du tout, et où il y a déjà depuis 10 ans, une dizaine, quinzaine d'années, à peu près 900 femmes qui ont été assassinées. Donc il y a tout un tas de parallèles à établir ou à étudier, quoi. Néolibéralisme et le rôle et le statut de la femme là-dedans.
Elle essaye de montrer que la chasse aux sorcières intervient un peu comme une sorte de conclusion, de victoire définitive dans une... après une période de lutte intense au niveau dans toute l'Europe, entre voilà, que ce soit des insurrections dans les premières concentrations ouvrières, mais aussi énormément de ce qu'on a appelé les jacqueries et les guerres de paysans. Et donc, voilà, le dernier coup de marteau, si on peut dire, le marteau des sorcières, précisément, c'est un peu cette grande chasse aux sorcières qui met tout le monde au pas. Et...
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez. Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez fait de statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et drôlade, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.